Chapitre 17. Une étoile de l'Avent en laiton perforé pend à la fenêtre de la cuisine. Bernard regarde Yuna, tire une chaise pour s'asseoir, s'arrête et, la main sur le dossier, lui demande s'il peut lui offrir un café.
Oui, volontiers.
Noir et fort, je parie.
Oui, ça me va, sourit Yuna.
Puis il pose son téléphone sur la table avant de se tourner de nouveau vers Hugo.
J'enregistre la conversation, juste pour que tu sois au courant.
Je veux pas paraître impoli, dit Hugo, mais faut vraiment que je bosse pour...
Couvert par le grondement du broyeur à café, il s'interrompt, s'avachit un peu en arrière et se gratte le ventre à travers un t-shirt délavé avec le logo Actes Sud.
Je ne resterai pas longtemps, dit Yuna. C'est juste que j'ai un contrôle demain.
Le sifflement et les gargouillis de la machine cessent. Bernard dépose une tasse sur une soucoupe devant Yuna.
Merci. En fait, je suis pas sûr de comprendre pourquoi vous êtes là,
dit Hugo en refermant son manuel de biologie.
Nous te considérons comme un témoin, même si tu as dit ne te souvenir de rien, répond Yuna.
Ce qui est bien le cas.
J'imagine que tu as préparé ton témoignage avec ton avocat avant le premier interrogatoire, commence Yuna.
On a discuté, oui, répond Hugo.
Mais les choses ont changé depuis le deuxième meurtre.
Oui.
Tu as dû être soulagé, non?
Je savais que j'étais innocent.
Bien sûr, sourit Yuna. Mais au final, ce qui compte, c'est de convaincre les autres. Et pour ça, il est courant d'arrondir un peu les angles de son propre récit.
Qu'est-ce que vous essayez de dire ?
Demande Hugo. Que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, maintenant que tu n'es plus considéré comme suspect, mais comme témoin, tu peux parler de certains détails qu'on t'a peut-être conseillé de taire auparavant, parce qu'ils auraient pu te rendre suspect, même si tu es innocent.
J'ai juste dit la vérité, répond Hugo en tripotant le piercing sur sa lèvre inférieure.
Tu as dit que tu avais marché en dormant jusqu'au camping, que tu t'étais réveillé dans la caravane quand un policier avait accidentellement tiré avec son arme. Pour toi, c'était comme si tu étais passé de l'instant où tu étais encore éveillé dans ton lit à la scène de crime, allongé sur le sol ensanglanté. Lors de l'interrogatoire, tu as déclaré ne rien te rappeler entre ces deux moments. Mais je crois que tu te souviens.
Non,
sourit Hugo. Tous les somnambules perçoivent leur environnement, même endormis. Ils ne percutent pas les meubles. Ils peuvent ouvrir les portes et ainsi de suite, rappelle Yuna.
Ça ne veut pas dire qu'ils se souviennent de l'avoir fait.
Mais tu te souviens de quelques détails, n'est-ce pas?
Tu n'es pas obligé de répondre, dit Bernard.
Tu te souviens de quoi? Insiste Yuna.
Ne réponds pas, répète Bernard. Tu n'es pas obligé.
Papa, je peux répondre,
le coupe Hugo. Je veux bien aider, mais je me souviens jamais de rien. Je crois que les rêves prennent trop de place.
C'est quel genre de rêve?
Des cauchemars flippants, qui me font parfois me réveiller dans des endroits bizarres.
Tu t'en souviens après coup? Demande Yuna calmement, en buvant une gorgée de café.
Par bribes, dit Hugo en haussant les épaules.
Quelle bribe de rêve as-tu gardé de la nuit dans la caravane?
Aucune idée. C'est toujours pareil, je dois fuir, il n'y a plus aucun sens à rien.
Et qu'est-ce que tu as vu en te réveillant?
J'ai eu super peur. Il me criait dessus, il y avait du sang partout.
Ça, c'est ton ressenti immédiat. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as vu?
Comment ça?
Il y avait beaucoup de sang dans la pièce, mais pas partout, évidemment.
Non, ok, concède Hugo, épuisé.
Ce que je cherche, ce sont des observations précises, des détails.
J'ai dit tout ce dont je me souviens.
On enregistre plus qu'on ne croit.
Vraiment,
soupire Hugo. Il se lève, prend un verre dans le placard au-dessus de l'évier et, le dos tourné, se sert de l'eau au robinet. Tu as un piercing en argent à la narine, un à la lèvre, 6 boucles d'oreilles dont un grenat en forme de cœur sur le lobe gauche. Ton père n'aime pas que tu te ronges les ongles, mais tu le fais quand même quand tu es stressé. Tu t'es cassé la clavicule quand tu étais petit, tu portes un t-shirt délavé avec écrit dessus « Actes Sud », une maison d'édition française, mais ça je savais pas, l'interrompt Hugo tout en fermant le robinet. Tu portes aussi des vêtements coûteux, comme ce gilet Tom Ford, mais tu les laisses s'abîmer. Il y a d'ailleurs un fil qui pend au bout de ta manche gauche. Tu devrais le couper et « Bravo !» le coupe Hugo en se retournant. « Sauf que je me suis jamais cassé aucun os. Je peux me tromper. Mais pas sur le fait que tu as des pansements à 3 doigts et un nouvel hématome sur la joue, » dit Yuna en le fixant. « Ok. » répond Hugo en se rasseyant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai refait une crise. J'ai voulu ouvrir une porte avec un couteau. Je me suis coupé. Ici, chez toi? Demande Yuna, même s'il connaît déjà la réponse. Non, chez ma copine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question, soupire-t-il. Je rêvais que j'étais poursuivi. J'ai voulu sauter de son balcon. Elle m'a rattrapé à temps. Tu rêvais que tu devais fuir son appartement. Non. Dans mes cauchemars, je suis toujours ici, à la maison. Peu importe où je dors. Quelqu'un veut tuer ma famille. Parfois, j'arrive à faire sortir ma mère et mon père, mais souvent j'échoue. Tu te souviens d'avoir essayé de sauter du balcon? Non. C'est elle qui me l'a raconté, une fois que je m'étais calmé. Mais avant de te calmer... Tu t'es souvenu du camping de Bredeng, dit Yuna. Qui vous a dit ça? Hugo retire sa main du verre, presse doucement ses doigts froids contre ses paupières. Tu te souvenais de quoi? J'ai oublié, murmure Hugo. Des cauchemars se passent toujours dans la même pièce de la maison? Demande Yuna. Non. Parfois dans ma chambre, parfois... dans mon ancienne chambre à l'étage. Parfois je descends l'escalier, parfois je vais dans l'entrée ou à la cave, mais je crois que c'est plus lié à mes parents qu'à l'endroit. Tu peux me montrer ton ancienne chambre? Demande Yuna. Il n'y a rien à voir, dit Hugo à contre-cœur. Ce sera rapide. D'accord, soupire-t-il en se levant. En réalité, Yuna demande ça pour pouvoir ensuite enchaîner naturellement vers sa chambre actuelle. Il quitte la cuisine, traverse une belle bibliothèque aux hautes étagères remplies de livres avec des fauteuils de lecture et une grande cheminée. « Je te pose toutes ces questions sur tes cauchemars parce que je pense qu'ils masquent tes vrais souvenirs de la caravane », explique Yuna en montant l'escalier grinçant. « Il n'y a pas de souvenirs. » Arrivé en haut des escaliers, il tourne à gauche, passe une porte vitrée et entre dans une petite chambre au papier peint bleu pâle avec un store à moitié baissé représentant un ciel étoilé sur un fond bleu foncé, un petit lit, une étagère avec des livres pour enfants et des trophées en plastique. Le sol est encombré de cartons scotchés, de boîtes de Monopoly, de Scrabble, d'un échiquier pliable, de câbles, de consoles de jeux, de Lego et d'un skateboard à l'effigie de Super Mario Bros. « Donc tu rêves parfois de cette pièce ?» demande Yuna en regardant autour de lui.
« Oui, »
soupire Hugo en grattant son avant-bras tatoué. « Et elle ressemble à ça, ou à ce qu'elle était quand tu étais petit ?»«
Quand j'étais petit. »«
Tu peux me la décrire ?» demande Yuna.
« Écoutez, je crois pas que ça mène quelque part. J'ai vraiment besoin de réviser,
je comprends. » dit Yuna en le regardant dans les yeux. Je dois quand même te rappeler qu'il y a un tueur particulièrement violent en liberté. Et ça, ce n'est pas rien. Yuna retourne dans le couloir et aperçoit au bout une grande chambre. Il peut distinguer le lit, recouvert d'un tissu gris matelassé, un lampadaire gris à motif peau de serpent et un fauteuil en cuir d'agneau assorti. Ils redescendent le large escalier, tournent à droite, passe un vestibule étroit et pénètre dans un couloir à lambris blanc. Sur le mur gauche, pend un ancien boulier chinois.
Avant que Hugo ne le laisse entrer dans sa chambre actuelle, Yuna a le temps d'entrevoir un salon au bout du couloir.
« Tu es donc en plein cauchemar quand tu fais du somnambulisme, » dit Yuna. « C'est ce qui te pousse à fuir. En même temps, tu vois la réalité autour de toi, les meubles, les gens. Mais à ton réveil, tu ne te rappelles rien de ce que tu as réellement vu. »
« En gros, oui, » dit Hugo.
« Mais si on te réveille pendant une crise, tu es encore en contact avec cette partie du cerveau où sont stockées les impressions visuelles. »
« Peut-être, je n'en sais rien. Comment pourrais-je savoir ?» dit Hugo.
Le large lit est défait. Des vêtements et des livres jonchent le sol. Le plafonnier oscille légèrement sous l'effet du mouvement d'air. Un fauteuil est placé dos contre une porte inutilisée. Sur le mur au-dessus du bureau est encadrée une page de manuscrit de Méridien de sang de Cormac McCarthy, avec les frappes nettes d'une machine à écrire. Dans le tiroir entrouvert de la table de chevet se trouve une boîte de préservatifs, un mouchoir bleu clair et une vapoteuse en plastique noir. Sur un carnet à spirale, une phrase a été griffonnée. « Je ne la rattrape jamais dans le rêve, mais dans la réalité, je m'en approche. »